RCF.
9h-11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On parle transition professionnelle, écologique et solidaire. Je vous propose jusqu'à 11h d'entendre justement le témoignage de personnes qui ont vécu ou sont en train de vivre ce type de transition avec vos témoignages, toujours au 04 72 38 20 23. Si vous avez vous-même vécu une transition professionnelle, venez nous dire quel a été l'élément déclencheur, comment avez-vous été accompagné et puis qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que, enfin, peut-être vous avez trouvé du sens dans votre travail ou alors peut-être que vous hésitez, vous doutez, vous êtes en perte de sens dans votre emploi? Eh ben, venez témoigner également au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h, je vous présente nos deux invités. Tout d'abord, Maxime Lenormand. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de notre invitation. Alors, vous avez été aidé par Transition Pro, justement, qu'on avait dans la première partie de l'émission représentée par Stéphane Guénézan. Tout s'est passé pour vous en 2020. Il y a eu un déclic. Vous allez pouvoir en témoigner dans un instant. Merci beaucoup, Maxime, d'être avec nous. À nos côtés également, Laetitia Piala. Bonjour, Laetitia.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Dans cette émission. Ravi de vous rencontrer. Alors, vous, c'était il y a quelques années. C'était en 2015, qui a,
oui,
eu peut-être une petite bascule dans votre vie. Alors, on va vraiment prendre le temps ensemble pour apprendre à vous connaître, pour essayer de comprendre aussi tout le cheminement qu'il y a eu dans vos vies personnelles. Laetitia, on va commencer avec vous et on va y aller piano. Hein. 2015, que s'est-il passé chez vous ?
2015, ça faisait déjà 10 ans que j'étais à Paris.
Oui.
Je travaillais dans un grand groupe, bon salaire. Et,
dans le marketing.
Dans,
hein,
le marketing,
ça,
tout,
ouais,
à fait. Du coup, on voulait aller en province avec mon conjoint, parce qu'on n'est pas des Parisiens, et on a bifurqué, on a été à Montpellier. Et là, c'était le changement, parce que j'ai aussi eu dans ma vie personnelle mon premier enfant.
Oui.
Et c'est souvent un grand changement pour les femmes, ce nouvel enfant. Notamment, on se pose des questions sur l'alimentation, et puis aussi, par exemple, sur des produits d'hygiène, qu'est-ce qu'on va mettre, etc. Et du coup, on commence à ne plus acheter pareil et réagir pareil et à,
ouais,
vouloir un peu faire attention. Et c'est le début finalement d'une prise de conscience. Et pour nous, ça a été aussi le switch de l'appartement à la maison, où la maison, on peut avoir un composteur, on peut avoir son potager, on peut faire pas mal de choses par nous-mêmes. Et puis, on n'était plus dans une vie parisienne à 100 à l'heure. Donc, du coup, on avait du temps, par exemple, pour cuisiner, pour faire pas mal de,
ouais,
choses.
Pourquoi vous avez quitté Paris ? Quel a été l'élément déclencheur là aussi ?
Alors,
parce que parfois, ça peut être la belle vie, Paris, surtout quand,
ouais,
on a un bon emploi quand même, de bons salaires, il ne faut pas se le cacher. Hein,
complètement.
Ce matin.
Moi, j'ai fait mes 20 à 30 ans à Paris. Donc, c'est, ouais, ma meilleure vie. Hein. J'ai commencé étudiante et après, mes premiers salaires, jeune actif, les after work, vraiment la vie rêvée. À côté de ça, par contre, pas du tout écolo, hein, c'était le début du low cost. Donc, moi, j'ai pris tous les avions que je pouvais, je louais mon appartement sur Airbnb, et puis c'était et je mangeais, je cuisinais rien, je mangeais ce que je pouvais au restaurant, etc. Donc, pas du tout écolo, mais par contre, une super vie. Qu'on a voulu changer, c'est que mon conjoint et moi, par contre, on est né en province et on est né dans des maisons. On a eu un jardin, on a été habitués par contre à ce qu'on nous cuisine des repas. Et en fait, on revient aussi, au moment où on commence à être parents, à ce qu'on a vécu, à notre éducation, et on a envie,
ouais,
de reprendre nos valeurs. Donc, il y a un gros switch qui s'est fait à ce moment-là.
Et donc, voilà. En 2015, à peu près, à partir de 2015, et quand notamment vous avez eu votre premier enfant. On,
oui,
en reste là pour le moment.
Parfait.
On va à l'épisode 2 dans un instant. Maxime Lenormand, on va faire connaissance également avec vous. Alors, je disais, c'est plutôt en 2020 que vous avez eu un petit déclic, notamment pendant le Covid. Et je crois que c'était vraiment une période charnière pour beaucoup de personnes. Dans quoi travaillez-vous avant, Maxime, avant votre transition ?
Alors avant ma transition, j'étais responsable d'une équipe de support technique pour une société éditrice de solutions informatisées pour différents secteurs de l'industrie. Et du coup, effectivement, bah, comme vous disiez, l'arrivée du Covid a eu un impact sur cette société, comme beaucoup. Et on a à ce moment-là été invité à réfléchir un petit peu à comment on pouvait optimiser notre temps pour trouver des moyens de valoriser ce moment de calme. Et du coup, on a été orienté vers la recherche soit de formation, soit de choses qui pourraient du coup nous permettre de développer un peu chacun nos compétences. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis orienté du coup vers une forme de recherche par un bilan de compétences qui m'a amené vers une VAE.
Oui. Et avant 2020, Maxime, vous aviez pas forcément l'envie de changer. Il y avait pas de doute, en tout cas, dans votre emploi.
Il y avait peut-être de manière un peu sous-jacente. Après, j'étais sur une mission qui était assez prenante avec la remise sur pied d'un service qui avait des difficultés. Donc, c'est vrai que pendant ce travail-là, j'avais pas forcément le loisir de me poser ces questions. Et ce moment de temps calme qui arrivait aussi avec la fin de cette mission était propice à différentes sortes de questionnements.
Donc voilà, 2020, année importante pour vous, dans une entreprise d'édition de solutions informatiques. C'était le boulot de vos rêves ?
Non, c'était pas du tout le boulot de mes rêves. C'était un boulot dans lequel j'étais efficace. J'arrivais à mobiliser des compétences qui me permettaient de faire mon travail correctement, mais ça ne me passionnait pas. Ça fait partie des questions que je me suis posées. Moi aussi, cette période charnière a été pour moi l'arrivée de mon premier enfant.
Ah.
Donc forcément, ça aussi, ça amène à se poser des questions. Et notamment, la question de ce que je faisais comme travail, est-ce que c'était ce que je voulais apporter à la société pour le futur de mon fils ? C'est des questions que je me suis posées. Ouais.
Voilà, donc ça, je note bien, parce que j'ai l'impression que dans l'équation, l'arrivée du premier enfant, ça change quelque chose. Une auditrice, Nathalie, au 04 72 38 20 23. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On vous écoute, bienvenue.
Merci. Alors, écoutez, je viens d'allumer la radio, j'entends votre émission.
Oui.
Que je trouve passionnante. Et
merci.
Moi, je suis de l'autre côté de... Je vous en prie. Je suis de l'autre côté de la barrière et en fait, j'accompagne des personnes qui sont en transition. L'interlocuteur précédent a parlé de bilan de compétences, de VAE, etc. Donc, c'est mon métier. Et moi, mon témoignage, c'est que oui, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans le cadre d'une transition. Mais à mes yeux et d'après mon expérience, la clé de tout cela, et c'est ce qu'on entend chez vos auditeurs, c'est le sens. Une personne qui manque de sens, elle a du mal à se lever le matin, elle a du mal à fonctionner. Et dès qu'elle retrouve, au cours d'un accompagnement, ou au cours d'une discussion, ou avec un livre, dès qu'elle retrouve en fait du sens, le sens c'est un élan de vie. C'est vraiment un moteur très puissant.
Mmh.
Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais à vous dire. Toujours chercher le sens, et parfois on se rend compte que certaines personnes font des sacrifices. Mais s'il y a du sens, c'est beaucoup plus facile de faire des sacrifices. Sacrifice, ça veut dire aussi rendre sacré. Voilà mon témoignage.
Merci, il est très précieux, Nathalie, votre témoignage. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Laetitia Piala, je retourne à vous pour apprendre à vous connaître en réagissant aux commentaires de Nathalie qui nous parle du sens, l'importance d'avoir du sens dans son métier, de le chercher aussi. Vous, quand vous travaillez dans le marketing, donc avant 2015, avant la bascule, on va dire, est-ce que vous l'aviez ce sens quand même ?
Oui, elle a raison. En fait, j'avais un métier qui avait complètement du sens. Moi, j'évoluais en grande distribution. Et donc, j'étais successivement chef de produit acheteuse et je développais des produits alimentaires. Et moi, j'adore cuisiner, j'adore la nourriture. Et du coup, ça avait complètement de sens à l'époque, ce qui ne l'a plus aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'avais pas de remise en cause à l'époque. Et j'avais pas, moi, clairement, donc on l'a pas spécifié au début. Moi, j'ai fait une transition vers l'écologie, donc ouais. Transition.
On y vient.
Voilà. Et du coup, j'avais pas non plus cet esprit écolo. Donc en fait, du coup, j'avais pas besoin de faire de transition à l'époque, effectivement. Et c'est à partir du moment où j'ai cherché du sens et je me suis dit, bah en fait, non, j'ai plus envie de travailler dans ce genre d'entreprise, que ça a été compliqué.
Mais ça arrivait un peu plus tard. Oui. La recherche de sens.
C'était
pas en déménageant.
Non, c'est vrai.
J'ai l'impression de vous connaître depuis des années et pas du tout.
Non, mais c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tard, oui. Oui, non, ouais. C'est vrai. Je me suis retrouvée à Montpellier à être dans des jobs, pour le coup, qui me plaisaient moins et à me poser des questions et à commencer, du coup, à intégrer une première association pour développer un supermarché coopératif.
Ouais.
Et là, c'est le début un peu où on met le pied dans l'associatif, ce qui est souvent aussi, alors, un moyen d'avoir du sens qui peut permettre des fois de garder son emploi par exemple et d'avoir du sens ailleurs. Donc moi c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années en fait, faire les deux.
Ouais. Voilà. Mais toujours en travaillant dans le marketing à Montpellier et oui. Puis à côté un engagement associatif que vous n'aviez pas peut-être à Paris.
J'avais pas du tout non. Non.
Pas le temps.
J'avais jamais connu quelqu'un qui travaillait dans l'associatif. C'est pas dans mes familles ça se fait pas. Mes amis le faisaient pas. Donc pour moi c'était même quelque chose dont je pensais pas que les autres faisaient. Et en fait j'ai commencé à y prendre super goût. Et l'associatif c'est un autre mode. De travail, de management, de relations, en fait. Et c'est aussi super. Ça donne beaucoup de sens, ouais.
Et qu'a changé votre bambin dans votre parcours, dans votre vie? Parce que ça, c'était pendant la grossesse ou c'était après?
C'était après. Bah, ouais. C'est clairement, déjà, je me suis dit, alors que j'aimais beaucoup la nourriture, mais je prenais pas le temps de cuisiner, je me suis dit, bah, il mangera pas un petit pot industriel. Donc, je lui ai fait tout. Tout le temps. Donc déjà, bah, faut aller faire son marché, faut cuisiner, se dire voilà qu'est-ce qui est bien pour lui. Et puis vraiment me dire bah les priorités en fait c'est pas le boulot, c'est surtout ça.
Ouais.
Je pense que jusqu'à ce que j'étais à Paris, j'avais une certaine forme d'ambition et puis ma priorité restait le boulot et les potes à côté on va dire. Et là ça a switché. Ma priorité c'est la famille et puis j'ai travaillé 8 ans et demi dans une grosse boîte, ma première boîte. Et en changeant, à partir du moment où vous changez de boîte, maintenant j'en ai fait beaucoup.
Ouais.
Vous vous rendez compte que vous êtes un pion dans une boîte, quand bien même vous êtes très bon et très performant, et vous pouvez être remplacé dès le lendemain. Et du coup, en fait, pour moi, la priorité maintenant, ça reste et ça restera ma vie personnelle et familiale et jamais une entreprise, quand bien même actuellement je travaille en associatif.
Voilà. J'ai l'impression avec vous, Maxime Lenormand, que ça a été peut-être un peu plus rapide pour vous parce que votre métier ne vous plaisait pas forcément ou en tout cas, voilà, vous n'étiez pas très épanoui. Et donc 2020 est arrivé avec cette proposition de travailler un petit peu sur vous, vos compétences, votre carrière. Et là, ce VAE, là aussi, il a changé quelque chose. Cette validation d'acquis j'ai plus le nom.
Des acquis de l'expérience.
Voilà, excusez-moi.
Absolument.
Ouais.
Absolument, ça a été vraiment un outil qui a vraiment joué beaucoup dans ma reconversion parce qu'il m'a permis de mettre des mots, de prendre conscience de compétences que j'avais développées presque sans m'en rendre compte en fait dans mon travail quotidien. Quand on est la tête baissée, voilà, dans ces tâches quotidiennes, bah il y a des choses qu'on fait plus ou moins bien et quand ça fonctionne, même si on peut s'en satisfaire, on n'a pas toujours la capacité d'identifier voilà quels sont les éléments clés, les compétences qu'on a mobilisées pour ça. L'outil de la VAE, c'est vraiment un outil qui vous amène à reprendre point par point, en étant accompagné par quelqu'un qui vous guide là-dessus, à identifier voilà point par point ce que vous faites bien, quels outils vous mobilisez, comment ça peut être utile dans d'autres secteurs et pas simplement sur vos tâches quotidiennes. Et ça m'a vraiment aidé à la fois à valoriser les compétences que j'avais développées en dehors de formation ou de diplôme et en même temps à me rendre compte que voilà ces compétences pouvaient être mobilisées dans bien d'autres secteurs. Et ça m'a ouvert l'esprit sur les possibilités de changement.
Et avec l'arrivée également de votre premier enfant, là aussi, il y a eu une espèce de reconfiguration, un reboot dans votre tête où les priorités ont changé et donc le sens a changé également.
Oui, absolument. Moi, pour moi, ce qui a vraiment énormément changé, c'était la valeur de mon temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon enfant est arrivé, le temps que je mettais à disposition de mon employeur, ça devenait aussi du temps pendant lequel je n'étais pas avec mon enfant. Et c'était tellement important pour moi à ce moment-là que ça s'est même traduit pour les premiers mois de la vie de mon fils par un congé parental que j'ai pris pour rester justement avec mon fils. Et comme ce congé parental était en même temps que ma VAE, bah du coup, à l'issue de cette période, ça devenait vraiment difficile pour moi de me dire je vais retourner utiliser la majeure partie de mon temps pour un emploi ou des actions qui n'ont pas énormément de sens pour moi, quoi. Donc c'était important de trouver un nouveau sens à ça.
Laetitia Piala, ça vous parle, ce que nous raconte Maxime ? Ça fait écho à ce que vous avez vécu ?
Oui, complètement. Sachant que moi, quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai pris aussi un poste de responsable marketing dans une PME, pour le coup. Et ça s'est pas bien passé. On m'a vendu un 90%, sauf que je travaillais 100%. Et je travaillais plus que 100%. Et bah, c'est ce que dit Maxime. Moi, j'avais plus de temps pour mon fils et j'étais à la limite du burn-out. Ce qui fait que j'ai, à la fin de ma période d'essai, donc au bout de 6 mois, j'ai refusé le CDI. Ça a été super dur. À l'époque, personne n'a trop compris parce que ça semblait être le job de rêve. Et ça a été la meilleure chose que j'ai faite toute ma vie parce que à l'heure actuelle, à chaque fois maintenant que je commence un nouvel emploi, la période d'essai, pour moi, elle est aussi bien importante pour l'employeur que pour moi. Et j'ai déjà arrêté d'autres périodes d'essai. Voilà. Donc si ça me convient pas, et notamment l'équilibre, on voit vite fait, hein, au bout de 6 mois, si l'équilibre, ça va le faire ou pas. Il faut mieux partir de l'entreprise et aller ailleurs, je pense.
Donc là, pas d'équilibre ?
Pas d'équilibre. Donc, je suis partie. Et en fait, comme ça se passait bien et qu'ils m'aimaient bien, ils m'ont proposé un CDD sur un autre poste. Avec pas la même chef, donc j'ai continué. Donc, comme quoi, le chef
toujours
aussi.
La faute des chefs.
Le chef joue beaucoup dans l'entreprise, je pense. Il n'y a pas que l'entreprise, il y a voilà, le responsable hiérarchique. Et puis, je rejoins Maxime, le nombre d'heures qui est alloué, en fait, à l'entreprise. Voilà. Autant quand on n'a pas d'enfants, je pense que les heures sup, c'est pas gênant. À partir du moment où on a des enfants, on commence à se dire, ce temps-là, je l'ai pas avec ma famille. Voilà.
Et vous l'avez pris, ce job ?
J'ai pris le CDD.
Ouais.
Ouais, puisque c'était pas le même responsable et ça s'est très bien passé. Voilà. Et derrière, j'ai refait donc j'ai utilisé un, à l'époque, ça s'appelait pas Transition Pro.
J'ai plus le nom. Je peux le retrouver parce que ça le fonds GESIF.
Voilà, le fonds GESIF et
c'est ça, en 2020 que ça a changé.
Ouais, j'ai fait une formation d'anglais pendant 4 mois parce que j'étais nulle en anglais et en marketing en fait, c'était quelque chose d'important. Donc j'ai fait ça et après j'ai retrouvé un CDI en communication. Voilà. Pour quelques mois avant de changer de ville.
Ce n'est pas faire offense à votre parcours, mais j'ai quand même le sentiment qu'à cette période, vous étiez un peu perdu, un peu paumé. Est-ce
oui.
que on peut utiliser cette expression ?
Oui, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens en fait, qui cherchent à changer. Souvent, ça fait très longtemps que dans la même entreprise. Souvent une grosse entreprise, et ça fait super peur en fait de switcher tout simplement. Et quand vous switchez, vous avez l'impression que... moi, en l'occurrence, tous mes amis continuaient les mêmes jobs... était du coup dans des évolutions de carrière positives avec des salaires qui augmentaient. Moi, j'ai commencé à réduire mon salaire hein, parce que je suis arrivée à Montpellier, donc province et province qui paye pas. J'avais un job qui me plaisait pas trop. J'avais pas vraiment d'évolution, donc je commençais à me dire en fait.
Qu'est-ce que je fais là ?
Qu'est-ce que je fais là, ouais. Et est-ce que je vais retrouver un job qui me passionne comme avant ? Je sais pas.
Maxime, est-ce que vous l'avez vécu ce moment où vous étiez complètement perdu, peut-être à la suite de la VAE, la validation des acquis de l'expérience ?
Alors, je dirais pas perdu, peut-être parce que pour moi ça a été assez rapide, je dirais au contraire, d'un seul coup, j'ai eu vraiment beaucoup de questions et qui se sont posées rapidement et avec des réponses assez évidentes en fait. Donc, plus que perdu, je dirais que j'ai eu une voie qui s'est ouverte devant moi et qui était évidente quoi.
Ouais. Et quelle voie justement ?
C'était la voie, la possibilité de la prise de conscience de compétences que j'avais développées, la possibilité de les utiliser dans un autre contexte et la conviction que j'avais en moi de vouloir œuvrer pour le milieu de l'environnement.
Et ça, vous avez réfléchi à tout ça tout seul ou alors il a fallu quand même pas vous faire aider, mais en tout cas en discuter, peut-être avec votre compagne à l'époque, la maman de votre enfant?
Oui, alors évidemment, avec ma compagne, forcément, on en a discuté. Il n'a pas fallu beaucoup de discussions pour rendre compte qu'effectivement, cette appétence pour l'environnement, elle était importante pour moi et qu'elle devait faire partie de ma vie professionnelle future. Et vraiment, le parcours avec la VAE, c'est vraiment ce qui m'a permis de prendre confiance en la possibilité, justement, de rebondir dans un autre secteur.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis, tout comme Nathalie qui est venue à l'antenne il y a quelques minutes. Racontez-nous si vous avez vécu une transition professionnelle, comment ça s'est passé pour vous, quel a été le déclic, qu'est-ce que vous faites maintenant, comment vous avez été accompagné, qu'est-ce qui en ressort de tout ça. 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 Laetitia Piala, donc on a parlé de votre enfant, on a peu parlé de votre mari. Parce que vous étiez plusieurs hein, dans l'histoire avec votre mari. Il a fallu réfléchir, j'imagine, quand vous êtes arrivé à Montpellier, quand au bout de 6 mois de CDI, de CDD, finalement, vous n'étiez pas vraiment épanoui.
Ouais. Il a toujours eu une confiance sur le fait que je trouve un job. C'est vrai que je sais bien rebondir. Par contre, il a pas compris la première fois où j'ai refusé mon CDI, effectivement. Ça s'est assez mal passé. Ouais, il comprenait pas. Il a accepté, mais il a pas vraiment compris. Il a pas compris mon mal-être et ouais.
Ouais, mais vous non plus, peut-être.
Moi non plus. Je savais que, vous savez, c'est quand on est à la limite du burn-out que on sait pas trop pourquoi, mais on sait que ça va pas en fait. Il y avait un épuisement. Donc, mais sur le coup, en fait, moi-même, je m'en voulais beaucoup. Je me disais, mais tu refuses un CDI, c'est quand même une ville où il y a peu de postes. Enfin, c'est pas l'idéal. Et j'avais très peur de ce que je pourrais faire par la suite. Ce qui m'a beaucoup aidée, du coup, c'est par exemple d'intégrer cette association, enfin, supermarché coopératif qu'on lançait. On était 10 au début, on a fini 1000 coopérateurs. Et du coup, faut imaginer que c'était du travail en mode chef de projet qui ressemblait beaucoup au monde de l'entreprise. Et j'ai pas fait de VAE, mais moi, je me suis rendu compte que mon expérience de chef de projet que j'avais eu en entreprise, en fait, je pouvais la remettre à plein d'autres endroits. Et du coup, ça, c'était assez stimulant et puis vraiment c'est ça qui m'a aidé à me dire que je pouvais aussi faire autre chose derrière.
Cette conscience écologique, elle a son importance hein, dans votre parcours, dans votre transition. Vous ne l'aviez pas forcément à Paris.
Pas hein, du
c'est
tout.
Ce que vous disiez.
Oui.
C'est vraiment en arrivant à Montpellier que vous vous êtes posé beaucoup de questions.
Ouais. Et puis l'entourage joue beaucoup. Je pense que j'ai fait des connaissances qui, elles aussi, faisaient attention. Et du coup, on commence à se poser des questions sur ce qu'on achète. Moi, c'est vrai que ça a d'abord tourné autour de l'alimentation. Et je me posais pas encore de questions sur par exemple l'achat de vêtements ou sur le mode de transport. On prenait donc j'habitais à Montpellier, mes parents sont à Nantes, on prenait l'avion régulièrement pour aller à Nantes. Donc j'avais pas encore toutes les clés de la transition, mais je savais qu'il y avait certains secteurs qui m'affectaient beaucoup. Ouais. Et je pense qu'on commence tous par un domaine qui nous touche plus. Et après, on élargit peut-être pour faire attention au niveau écologique. Mais on a tous des domaines qui nous touchent plus. Et on a tous des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres, d'ailleurs. Donc, il faut pas se limiter. Faut essayer de faire ce qui est le plus simple pour chaque personne, en fait, je pense, dans la transition écologique.
Maxime Lenormand, cette conscience écologique, elle est arrivée en 2020, quand il y a eu cette remise en question, ou elle était déjà présente chez vous ?
Non, moi, elle était vraiment déjà présente de longue date. J'ai toujours été attaché à la nature de manière générale et j'essayais de faire ce que je pouvais pour limiter mon impact, même si bien sûr ça dépend des prises de conscience qu'on a dans les différents secteurs et des moyens qu'on a aussi pour faire sa part. Moi, ce qui a vraiment changé, c'était la découverte d'opportunités d'intégrer ça dans ma vie professionnelle. Et ça, pour le coup, ça m'avait jamais, j'avais jamais perçu cette possibilité en fait.
Ouais. Parce que votre emploi, avant dans les solutions informatiques, est-ce que il allait contre vos valeurs écologiques ?
Je peux pas dire qu'il allait directement contre parce que il ne me faisait pas faire des choses qui étaient vraiment nuisibles pour l'environnement. Par contre, on interagissait beaucoup avec le milieu de la grande distribution, dont certaines pratiques pouvaient effectivement être en désaccord avec ma vision des choses, le milieu de l'énergie aussi, avec des énergies pas forcément renouvelables. Donc oui, en tout cas, c'était pas un milieu où je pouvais m'épanouir sur cette partie-là de mes convictions.
Et donc en 2020, là pour le coup, remise en question. 2020, d'ailleurs, on parlait souvent, je me souviens, à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, d'un monde d'après, après Covid. Je sais pas où il est ce monde d'après, mais en tout cas, peut-être que ça a forgé quelque chose.
Ouais, alors c'est clair que moi, pendant le confinement, j'avais la chance d'habiter à côté d'une forêt. Donc malgré les périmètres de restriction, j'avais l'opportunité d'aller tous les jours me balader en forêt. Je pense que ça a été à la fois une bouffée de respiration et en même temps un petit peu un clin d'œil qui était de dire, bah voilà, en fait, là où je veux être pour la suite, c'est ça, c'est cet environnement-là. Mmh. Et ça m'a aidé à ouvrir les yeux aussi là-dessus. Mmh.
Oui, ça vous parle, j'ai l'impression, Laetitia.
Oui, complètement, ouais.
Ouais, non, mais c'est intéressant de vous entendre parce que je trouve que voilà, vous avez deux parcours totalement différents oui. quand même, mais il y a des points convergents.
Oui, complètement. Moi, je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps pour le coup que Maxime à me rendre compte de cette transition. Ça a vraiment été sur le long terme.
Ouais, parce qu'à Paris, on ne se posait pas la question.
À Paris, enfin, je ne me posais pas la question. À Montpellier, déjà, je me disais, c'est plutôt quel job je vais pouvoir avoir, je ne savais pas trop. Et puis, si on revient un peu au niveau salaire aussi, j'ai commencé à travailler dans cette association qui, à un moment, proposait quelques postes en CDI qui auraient pu potentiellement m'intéresser. Mais du coup, c'est là où j'ai commencé à découvrir que dans la transition, ça ne payait pas. Là, on était sur des jobs au SMIC. Et à l'époque, j'étais pas du tout prêt à diminuer autant mon salaire, en tout cas. Et c'était un gros problème, ouais.
Et on va voir un peu pour la suite. Roselyne nous a rejoint. Bonjour, Roselyne.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Alors, j'ai entendu votre émission et je suis particulièrement intéressée. Moi, j'ai fait toute une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, un jour, mes racines agricoles sont revenues à la surface. J'ai décidé de changer. J'ai recommencé une formation. Je suis devenue à 58 ans bûcheron.
Ah oui.
Puis j'ai passé un BTS de gestion forestière. Je suis devenue, j'ai eu mon BTS de gestion, puis une licence pro. Et à 62 ans, je suis devenue enseignante dans un lycée professionnel. Et puis j'ai pris une retraite. Ça paye pas. Le ministère de l'Agriculture, j'entendais la personne précédente, ça paye pas. Donc j'ai pris ma retraite et aujourd'hui, je suis présidente des syndicats des forestiers privés de l'Hérault, celui de l'Occitanie. Et là, je me suis arrêtée sur la route. J'allais à une réunion d'information que nous animons. Et donc c'est une reconversion professionnelle, plus tournée effectivement vers la nature, et qui me fait mieux que m'intéresser, qui me passionne. Et je suis très heureuse. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais fait avant un bilan de compétences, une validation des acquis de l'expérience dans mon ancien métier. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de savoir et de faire le point sur toutes les compétences que j'avais acquises au cours de ma carrière. Et aujourd'hui, enfin la semaine prochaine par exemple, je serai jury de VAE.
D'accord.
Voilà, et il y a une légitimité puisque moi-même j'ai vécu ce passage-là.
Et vous avez fait ça un peu toute seule, Roselyne, cette transition ?
Alors, je dois dire que j'ai été mal ou peu accompagnée. Il y a beaucoup de choses que l'on ne m'a pas dites, que je ne savais pas, ne serait-ce qu'il fallait une tenue de sécurité quand on était bûcheron. En revanche, les personnes que j'ai rencontrées m'ont guidée, appuyée, des enseignants dans un CFPPA, En fait, c'est pas du tout par la voie officielle, mais c'est plutôt de l'histoire de rencontres qui m'ont aidée et soutenue, parce que j'étais déjà pas vraiment jeune. Ensuite, j'étais la seule femme à ce moment-là aussi. J'ai fait ma reconversion, mon certificat de bûcheron à Pamiers, dans l'Ariège, et je dois dire, j'ai eu un accueil vraiment... J'étais très portée, voilà, très portée, très assistée.
Merci.
Mais reprendre des études un peu tard, c'est pas facile, physiquement non plus. La tenue n'était pas celle dont j'avais l'habitude non plus. Mais voilà, et aujourd'hui, je m'aperçois que tout l'acquis au cours de ma vie professionnelle antérieure à celle-là m'aide énormément, puisque je dois prendre la parole, je dois communiquer, je dois... Voilà.
Eh ben merci beaucoup, Roselyne, vraiment, pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Je trouve ça audacieux à peut-être 58 ans. Je dis pas que c'est un âge avancé, mais en tout cas, c'est toujours plus compliqué quand on vieillit de pouvoir tout changer du jour au lendemain. Donc, merci beaucoup. On va commenter tout ça dans un instant avec nos deux invités, Laetitia Piala et Maxime Lenormand, qui ont vécu tous les deux une transition professionnelle, écologique et solidaire. Solidaire d'ailleurs. On va continuer avec également vos témoignages, vos appels au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr. A tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense, donc j'agis. Vous avez vécu une transition professionnelle. Venez témoigner au 04 72 38 20 23. Ou alors si vous êtes attiré par ça, si vous doutez dans votre emploi, venez également prendre la parole ce matin.
depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes, ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
Ouais, très belle chanson d'Arthur H pour vous accompagner en ce mardi matin, La Route.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on vous présente deux routes, deux chemins jusqu'à 11h ce matin avec Laetitia Piala qui a vécu une transition professionnelle et puis également Maxime Lenormand. Maxime, on en était avec vous puisque après votre bilan de compétences, votre VAE, vous avez été accompagné par le Transition Pro Normandie. À quel moment vous les avez rencontrés? À quel moment vous êtes dit là il faut pas que je sois seul pour faire cette transition?
Ça s'est fait dans la continuité de la VAE. En fait, pour cette VAE, j'ai été amené à faire une soutenance et à du coup à être accompagné par le CESI. Les gens que j'ai rencontrés, du coup, m'ont présenté les différentes possibilités justement pour poursuivre un peu cette démarche de transition. Et donc j'ai vu que je pouvais solliciter effectivement des aides pour me soutenir financièrement durant une période de formation.
Oui. Et ça a été simple de faire ça?
Alors simple, c'est Je dirais pas ça, dans le sens où ça demande quand même de monter un dossier qui, même si a posteriori il ne demande rien de sorcier, quand il faut le monter et qu'on n'a pas l'habitude, ça de prime abord, ça peut paraître un peu complexe. Donc c'est important de se faire accompagner et de pas comment dire chercher à trop compliquer les choses. En fait, répondre, il y a beaucoup de questions qui sont posées en fait pour pouvoir monter le dossier. En tout cas, ça a été mon ressenti. Donc cette période-là, je l'ai trouvée un peu complexe avec parfois des allers-retours sur des choses qui étaient demandées et qui tombaient pas forcément dans la bonne case, etc. Mais une fois que ça a été validé, pour le coup, ça a beaucoup simplifié les choses.
Et vous, Laetitia Piala, quel organisme vous a aidé à finalement y voir un peu plus clair dans votre vie? Parce qu'il y a eu l'étape Montpellier.
Voilà, il y a eu l'étape Montpellier. Après, on a vécu à New York pendant 3 ans. Et on est tombé à New York pendant le Covid, d'ailleurs. Donc, déjà, on a perdu notre maison, on s'est retrouvé en appartement. On a dû se rendre compte de la réalité de l'alimentation, notamment aux États-Unis, et du transport. Hein. On savait qu'on resterait que 3 ans à New York, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, quand je reviendrai en France, il faut vraiment que là, j'ai un job qui me plaise et qui sera dans la transition écologique. Donc j'ai commencé à chercher depuis New York une formation, et c'est là où se lançait un peu l'Institut Transition avec Isabelle, qui était là jusqu'avant, à Lyon. Et donc j'ai cherché dans plusieurs villes en France. J'avais aussi trouvé Lumia à Grasse ou d'autres formations équivalentes. Moi, je cherchais pas forcément quelque chose de certifiant, mais je cherchais quelque chose qui puisse montrer que j'avais une réelle envie de travailler dans la transition écologique et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est très difficile de transitionner, j'ai envie de dire. Et donc, même si on a envie, moi, j'étais mise dans une case marketing et je pouvais pas m'en sortir. Donc, il fallait à tout prix que j'ai un moyen aussi de montrer que j'étais réellement motivée pour changer de voie et le prouver. Parce que mon CV, il avait rien d'intéressant pour une entreprise ou une association dans la transition écologique, et que du coup, de toute façon, ils auraient pas voulu même pas me recevoir, quoi. Donc j'ai décidé finalement de faire une formation. Donc il y a maintenant 3 ans, quand je suis arrivée à Lyon, à l'Institut Transition, qui est une formation non certifiante mais généraliste sur la transition écologique et solidaire, avec beaucoup d'intervenants, des missions dans des structures qui peuvent s'apparenter à des stages, mais c'est des plus courts, et un mémoire à écrire. Et ça m'a beaucoup aidée à pouvoir derrière être légitime et pouvoir moi rencontrer 50 personnes dans mon cas qui voulaient apprendre d'autres choses, et puis m'ouvrir l'esprit sur plein d'autres sujets. Moi, j'étais sur la transition écologique et je voulais travailler dans le zéro déchet ou le vrac, et finalement je me suis ouvert à plein d'autres choses, et notamment aussi au côté solidaire qui va avec la transition, et qui est maintenant important pour moi, et que je développe aussi dans mon métier actuel. Voilà.
Donc un accompagnement qui était vraiment nécessaire, d'après vous ?
Alors, oui, parce que moi, ce qui a été bien, c'est que ça m'a donné le temps de me poser pendant 1 an et de voir aussi ce que je pouvais faire. Et Lyon, c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités. Donc, j'ai commencé à rencontrer des structures et des personnes, donc faire mon réseau. Et c'est toujours important, le réseau. Et oui, parce que en France, les recruteurs, et même dans le domaine associatif, ils vont regarder ce que vous avez fait, ils veulent que vous fassiez exactement la même chose. Donc si vous prouvez pas par un petit moyen que, alors ça peut être un VAE, mais par un moyen que vous avez vraiment envie de changer, c'est très compliqué par un CV, quand vous envoyez juste un CV et une lettre de motivation, de sortir du lot, du coup.
Voilà. Maxime Lenormand, ça rejoint un peu ce que vous avez fait.
Oui, il y a de ça aussi. Je rejoins tout à fait Laetitia sur l'importance du réseau, et effectivement le fait de se faire accompagner, c'est aussi limiter le risque de rater des opportunités, en fait. Et c'est important pour ça d'interagir avec des gens qui sont déjà dans un pied dans le milieu, pour pouvoir soi-même être intégré. En faisant tout seul, on arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe, entre guillemets. Là, au moins, en étant accompagné et en se faisant son réseau, on a un peu plus de légitimité.
Oui. Ce que je retiens dans ce que vous dites, vous, par exemple, Laetitia, c'est que En rentrant de New York, donc il y a eu Paris quand même, grande ville. On sort de Paris, hop, on se pose des questions. Finalement, vous allez à New York et vous rentrez New York, hop, on se pose des questions aussi. C'est-à-dire qu'on quitte les grandes villes, on se pose des questions. C'est un peu ce qui s'est passé pour vous.
Oui, oui. Bah c'est sûr que les grandes villes niveau écologie c'est plus compliqué. Et puis quand on est dans une grande ville et qu'on n'habite pas après aussi de sa famille, du coup on prend par exemple beaucoup les transports. Donc ouais. Ça se fait poser beaucoup de questions. Et puis le côté culturel, la France, on n'est pas du tout, on fait pas tout du tout bien. Mais quand vous allez aux États-Unis, forcément, vous prenez de plein fouet une culture écologique qui n'existe pas. Donc ça vous aide encore plus. Donc à partir de là, par exemple aux États-Unis, on a décidé d'arrêter de manger de la viande. Parce que finalement, on s'en rend pas si compte que ça au supermarché en France. Mais là-bas, vous voyez très bien que la viande est c'est une horreur ce que vous pouvez manger. Donc c'est pas contre la viande, et je dis pas aux gens de ne plus manger de viande, mais il faudrait pouvoir manger de la bonne viande et savoir d'où elle vient. Et là, c'est pas le cas souvent. Donc voilà. Donc nous, on a eu des choix assez forts. Depuis qu'on est rentré des États-Unis, on a aussi décidé maintenant de plus prendre l'avion. Pareil, on n'est pas tout rose, on a énormément pris l'avion avant, mais maintenant on se rend compte de choses. Et maintenant, je pense qu'on sait. Il y a eu le Covid aussi qui a beaucoup joué. Et on sait un peu plus les impacts que ça a vraiment concrètement nos choix. Donc ne plus prendre l'avion, oui, c'est plus dur. Ne pas manger de viande, c'est assez facile pour nous. Je pense qu'on a tous des choix qui sont simples et d'autres qui sont plus compliqués à faire. Voilà, chacun peut faire juste sa part sur les choix peut-être déjà les plus faciles au début.
Et votre mari, lui, est-ce qu'il a voulu changer à un moment son emploi ou il vous laisse faire ?
Il me laisse faire. Non, il a jamais voulu changer. Ouais. Il est en pharmacie et il est en supply chain. Et il adore son job. Pour le coup, c'est lui qu'on a suivi. Hein, donc, il a une bonne évolution de carrière à l'heure actuelle. Tout l'inverse de moi, on va dire, si on pourrait regarder au niveau salaire et ambition. Mais lui, surtout, je l'ai toujours laissé faire parce qu'il, foncièrement, il aime son travail et il adore aller travailler. Et donc, c'était le premier témoignage qu'on a eu. C'est en fait, il a pas de quête de sens dans son travail. Donc, effectivement, c'est peut-être pas le job le plus écologique, mais c'est pas grave. On a des choix écologiques à la maison. Et lui, il aime ce qu'il fait, donc c'est le principal. Mmh.
Maxime Lenormand, à Transition Pro Normandie, est-ce qu'on apprend un métier ou alors on partage l'expérience des autres ?
Alors, moi, du coup, il y a eu une phase apprentissage d'un métier, puisque la suite de la VAE, pour moi, ça a été de me lancer dans un BTS GPN, Gestion et Protection de la Nature. Que j'ai eu l'opportunité de faire dans un temps assez court, puisque ça se faisait en un an, grâce au diplôme de manager de proximité que j'avais pu obtenir grâce à ma VAE. Et donc, effectivement, cette partie-là, elle m'a permis d'apprendre forcément un métier, de découvrir aussi les liens qu'il y avait avec les compétences que j'avais validées avec ce diplôme de manager, et encore une fois, de mieux percevoir les opportunités que ça allait me présenter pour la suite.
Et vous, Laetitia, c'est ce que vous m'avez dit d'ailleurs quand on a préparé l'émission hier. Vous apprenez pas un métier à l'Institut Transition. Vous apprenez pas un métier. Vous apprenez peut-être vous apprenez les parcours des autres.
On apprend les parcours des autres. On a beaucoup d'intervenants professionnels très inspirants et on apprend sur des sujets de la transition écologique et solidaire vraiment diverses, notamment on va dire l'habitat, les banques. Moi, je m'étais jamais posé la question de ma banque, alors que finalement, ce serait qu'on change de banque, ce serait un des éléments clés vraiment pour la transition. Donc, on va voir des choses très diverses, et du coup, c'est ça qui permet d'être ouvert d'esprit derrière. Et puis, on a tous des parcours différents, donc en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul, mais qu'on aspire tous à des parcours différents à la suite. Il y en a qui sont vraiment portés sur le côté social, et d'autres beaucoup plus sur la nature, comme Maxime. Moi, j'avais le côté plutôt agricole, alimentation, et il y en a qui vont être plutôt sur le côté, oui, financier, transport avec aussi bien le vélo, et puis d'autres qui vont être sur le compostage, le zéro déchet. Enfin, il y a vraiment, c'est hyper large, en fait, la transition écologique et solidaire.
Ouais. Et faire des choix.
C'est-à-dire
faire des choix, c'est de se dire, par exemple, je ne peux pas tout changer non plus dans ma vie.
Oui, là.
Vous avez parlé de la viande. Du coup.
Pendant la transition, au début, on a tous été un peu surpris. Au bout de 2-3 mois, on a été quand même très éco-anxieux. Alors en plus, on sortait du Covid tous. Parce qu'on se prenait tous les sujets qu'on voyait en plein dedans et on se disait, mais je vais jamais pouvoir m'en sortir en fait. Moi, j'ai été hyper éco-anxieuse et parce que j'ai deux enfants et je me disais en plus, mais qu'est-ce qu'on leur laisse comme monde derrière, etc. Et petit à petit, on arrive à sortir de là. Ce qui nous explique pendant la formation, c'est qu'il faut passer à l'action. Et donc, on va pas passer à l'action sur tous les sujets, c'est pas possible. Donc, on va chacun choisir un peu un chemin de bataille et puis effectivement, se rendre compte que bah, y a peut-être des sujets prioritaires, hein. Qu'on peut voir avec des ateliers comme Deux Tonnes, etc. Où on a un impact qui est plus important. Et puis surtout, il y a des choses qu'on peut faire qui sont faciles pour nous et d'autres qui sont plus compliquées. Et il faut prendre le temps et puis ne pas vouloir tout faire parce que c'est impossible. Il faut aussi pouvoir vivre prendre du plaisir à vivre en fait. L'éco-anxiété, des fois, ça peut être ça. Ça peut être ça peut plomber une soirée entre amis si on parle que de ça. Donc voilà.
Oui, je peux comprendre. Mais donc, des choix à faire, des concessions aussi. Ce n'est pas des sacrifices, n'allons pas jusque-là.
Bah oui, nous, s'il y a une grosse concession, c'est clairement prendre l'avion. On adore découvrir le monde, les cultures. Et notamment, j'ai deux enfants. En fait, ça paraît pour plein de gens génial de leur dire on va aller en Asie, on va aller leur montrer comment ça passe à côté. Alors maintenant, je suis plus dans un état d'esprit. Moi, je leur dis... Oui, dans ta vie, tu peux aller une ou deux fois faire un long courrier et effectivement découvrir une autre vie, mais tu vas pas y aller comme ça pour des vacances, pour te faire plaisir. Ouais. Donc c'est un moyen de ne pas dire non, mais de remettre un peu dans la réalité en fait.
Ça va jusque-là également, Maxime Lenormand, vous, dans votre foyer ?
Oui, alors chez nous, le parcours était un petit peu différent. Je pense qu'on avait déjà des habitudes avant ma reconversion qui nous permettaient d'être plus en accord avec notre vision du monde et notre attachement à la nature. Par contre, forcément, la reconversion professionnelle, elle demande forcément des choix et certains, même si sacrifice le mot est peut-être fort, changements majeurs. Moi, je pense notamment à une question peuvent se poser peut-être des personnes qui voudraient changer, c'est la question du salaire. Personnellement, en passant d'un poste de responsable dans le milieu de l'informatique et vers l'environnement, je savais que j'allais pas vers plus de revenus. Mais j'étais arrivé à un stade où je m'étais rendu compte aussi que finalement, dans mon travail, plus de revenus, c'était pas ce qui allait m'apporter ce dont j'avais besoin, quoi. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut peut-être se poser en amont quand même pour pas se retrouver coincé, mais qui font partie de la démarche. Et puis je voudrais aussi dire que même s'il y a des sacrifices à faire, à partir du moment où on s'est lancé dans une démarche de reconversion, c'est que on a vraiment mis le doigt sur des convictions, des besoins, et que du coup il n'y a pas de sensation de renoncement. En ce qui me concerne, je suis tout à fait à l'aise avec ce que j'ai laissé derrière et j'ai vraiment plus la sensation d'avoir débloqué des possibilités et d'avoir valorisé mes compétences. Quoi.
Je trouve ça intéressant ce que vous dites, Maxime, parce que on parle quand même de salaire depuis le début de cette émission. Laetitia, est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ça ?
Bah non, clairement. Hein, je pense que... Si on parle de chiffres, on perd souvent entre... Si on est dans une grande entreprise, on perd entre 30 et 50% de son salaire. On perd des avantages, hein, souvent des RTT, des primes, des avantages en nature. Donc c'est énorme financièrement. Après, quand j'imagine quelqu'un qui est tout seul, imaginons avec ses enfants, clairement, ça risque d'être compliqué. En couple, je pense que... Ça peut aller et ça va aussi par contre souvent avec un changement de vie. Effectivement, nous on a besoin de moins de choses. On n'achète plus de viande, on achète tout en seconde main, on prend plus l'avion, on fait des vacances plus limitées. Donc tout ça, ça fait que vous avez moins de besoins et vous ça crée pas
ça fait
forcément.
Des économies quand même.
Ça fait pas des économies, mais vous êtes pas en... Oui, enfin, ça fait des économies sur le budget, et on va dire que ça peut aider, du coup, quand on gagne moins. C'est vrai que c'est là où ça peut être compliqué de transitionner. Après, moi, j'ai beaucoup changé d'entreprise, et ce qu'il faut se dire, c'est pas, quand on va changer de job, c'est peut-être le premier job sera peut-être pas le bon. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à changer, il y a un déclic où on se dit qu'on peut aller aussi dans d'autres endroits. Donc il faut se dire que il faut pas tout accepter, il faut pas accepter non plus tous les salaires. Je dois ajouter, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de femmes dans la transition parce que les femmes sont plus prêtes à lâcher de leur salaire que les hommes. C'est un fait. Je pense qu'il y a une mentalité chez les hommes plus de, justement, au niveau du salaire, de, d'un statut social et d'une progression qui est plus difficile à lâcher que pour un homme que pour une femme. Voilà.
Ça, c'est ce que vous pouvez analyser.
Ouais, de ce qu'on a vu, de ce qu'on voyait. Déjà, il y avait plus de femmes hein, dans ma promo. Et puis, globalement, on arrivait plus à lâcher du salaire quand on était une femme. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Alors maintenant, je suis responsable des partenariats pour une association qui s'appelle Linky, L-I-N-K-E. C'est une association nationale. Et nous, on a deux objectifs. C'est lutter contre le gaspillage alimentaire, donc récupérer des dons auprès des entreprises, des choses qui pourraient pas être vendues, si bien des boulangeries, des supermarchés, des événements. Et surtout, derrière, on les redistribue à des étudiants précaires. Tous les jours, toutes les semaines, on a des distributions à des étudiants. J'y étais encore hier soir. Il y avait 450 étudiants à Lyon qui recevaient un panier de 5 à 7 kilos. Donc ça, c'est vraiment pour moi une transition réussie dans le sens où je lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est le côté vraiment écologique. Et puis, il y a le côté social où là, je lutte contre la précarité étudiante qui est grandissante comme toute la précarité en France. Et du coup, c'est vrai que les deux m'apportent beaucoup. D'avoir rajouté ce côté social m'aide beaucoup dans ma quête de sens.
Ouais. Et ça vous aide, mais est-ce que c'est vraiment fixé maintenant ou alors vous vous posez toujours des questions ?
Je me pose toujours des questions parce que une fois qu'on prend goût à changer, moi je pense que j'aime le changement. Vous avez compris, j'ai souvent changé de ville aussi.
Sans blague.
Du coup, non, je me pose des questions et moi c'est plus une question de, j'ai 40 ans, reste encore presque 25 ans. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler devant un ordinateur pendant 25 ans ? Non. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui adore cuisiner, qui peut passer 8 heures en cuisine. Donc je pense que ma prochaine reconversion ce sera travailler. En cuisine, devenir chef, ouais.
Vous m'inviterez ?
Oh bah avec plaisir. Avec plaisir.
Maxime Lenormand, vous, qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Alors, juste avant ce que je fais maintenant, je vais juste préciser que je suis passé à l'issue de ma formation par un premier poste où j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler sur un atlas de la biodiversité communale. Qui est un programme que j'invite tout le monde à découvrir et notamment chacun peut sensibiliser les élus de sa commune pour aller sur la possibilité de bénéficier de subventions de la part de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pour mener ce type de démarche qui permet vraiment d'améliorer la connaissance de la biodiversité à l'échelle d'un territoire et c'est une base vraiment précieuse pour ensuite mener des politiques d'aménagement qui soient cohérentes avec des enjeux locaux. Ça, c'était du coup la première partie. Ça m'a pris près de 2 ans. Et aujourd'hui, je suis maintenant animateur au sein des Maisons des Forêts de la métropole Rouen-Normandie, qui est une structure qui permet de sensibiliser un petit peu le public, les scolaires, sur différents enjeux liés aux forêts et plus généralement à la biodiversité. On a la chance à Rouen d'avoir la métropole de France la plus forestière, avec près d'un tiers du territoire qui est couvert de massifs forestiers. Et donc on s'efforce de valoriser ce patrimoine et de sensibiliser la jeunesse parce que effectivement les questions d'écologie elles sont malheureusement fortement impactées par le phénomène qu'on appelle la déconnexion à la nature et qui fait que les jeunes générations ont moins d'opportunités de profiter d'être en contact avec la nature.
Vous êtes heureux maintenant, Maxime ?
C'est une question philosophique, mais je le suis plus qu'avant, oui, clairement. Plus épanoui, en tout cas.
Plus épanoui. Et vous, Laetitia ?
Oui, oui, complètement. Oui, je suis beaucoup plus épanouie. Et puis pour rebondir sur la nature, en fait, on parlait de mon mari tout à l'heure. Je l'ai un peu poussé, moi, dans une asso de scouts, les éclaireurs de la nature. Et maintenant, il est responsable de l'association des Monts du Lyonnais, où vont mes enfants aussi. Et donc, je pense que c'est un peu comme ça, moi, que j'ai débuté. C'est-à-dire que j'avais mon emploi et j'avais un job associatif à côté. Et je pense que tous ceux qui sont aussi, qui ont une quête de sens, mais qui se sentent bien dans leur emploi, peuvent imaginer d'avoir quelques heures de bénévolat pour des structures. Et ça apporte énormément et sur le sens. Et ça permet de pas tout le temps changer de job directement, en tout cas.
On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Laetitia et Maxime pour vos témoignages ce matin. Ce n'est pas totalement terminé puisqu'on va retrouver notre chroniqueur tout de suite. Avec un autre sujet, mais lié quand même à l'écologie, aux antipodes de la spéculation immobilière, la coopérative Village Vivant souhaite installer des activités engagées dans la transition écologique et remettre de la vie dans les campagnes. On va en parler avec Julien Deséco, le directeur du média Sans Transition. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
Alors, basé à Cray dans la Drôme, quel type d'activité favorise Village Vivant?
Ici, un tiers-lieu, là, une micro-crèche ou encore un atelier de réparation de vélo, voire une ressourcerie. C'est ce mouvement à mi-chemin entre l'entrepreneuriat social et l'engagement bénévole que Village Vivant veut soutenir et diffuser. Ces nouvelles boutiques de proximité, souvent issues de l'économie sociale et solidaire, sont avant tout à la recherche d'un impact social et environnemental. Le café ou le tiers-lieu ne déménageront jamais dans une zone commerciale pour augmenter leur clientèle. Et on recense 3500 tiers-lieux, en effet, en France.
Oui, dont le tiers en milieu rural, d'ailleurs, Julien. Quel exemple de projet accompagne Village Vivant?
Illustration à Pélussin dans la Loire, petite ville de demain de 3700 habitants sur les hauteurs du massif du Pilat. Le bâtiment d'une ancienne école, près de 2000 m² sur 3 étages au cœur de la ville, concentre l'attention des élus. Quel avenir imaginer pour ce lieu racheté via l'établissement public foncier? Et surtout, comment impliquer habitants et acteurs locaux pour coécrire le projet tout en s'assurant de sa faisabilité? Plutôt que de faire appel à un cabinet d'architecture pour mener une étude de programmation classique, la mairie a sollicité début 2023 la coopérative Village Vivant pour constituer une équipe pluridisciplinaire. Le faire tiers-lieu démarre ainsi. C'est au fil des réunions collectives, de la présentation des contraintes techniques et budgétaires, de consultations des partenaires, mais aussi de visites d'autres lieux inspirants et de témoignages extérieurs que s'est co-construit ce projet collectif inspirant. Un café cuisine associatif sera au cœur de cet espace, conçu pour accueillir diverses activités telles que des cours de musique, de danse, des ateliers créatifs, des stages, des répétitions, des réunions et des événements. Autant dire un véritable poumon communal.
Et alors, des élections européennes, Julien, il est quand même bon de rappeler que l'Union soutient la création de ces initiatives remarquables sur les territoires.
En effet, Melchior, le programme LEADER pour liaison entre action de développement de l'économie rurale accompagne des initiatives communautaires en faveur du développement rural comme celle que nous venons d'étayer. Objectif, inciter et aider les acteurs ruraux à réfléchir et agir sur leur territoire dans une perspective de long terme. Rien qu'en région Pays de Loire, par exemple, ce sont ainsi près de 1500 projets soutenus via le fonds LEADER sur 27 territoires. Au niveau du budget, on estime que l'enveloppe dédiée au programme LEADER sera entre 450 et 500 millions d'euros pour la période 2023-2027, soit une dotation annuelle identique à la programmation précédente, 1,5 million en moyenne par groupe d'action locale. Autant dire que l'Europe soutient les territoires.
Merci beaucoup Julien Deséchos pour nous avoir présenté cette initiative. On peut retrouver d'ailleurs une interview avec Village Vivant dans votre magazine qui s'intitule « Sans transition » à retrouver également sur Internet. Merci Maxime Lenormand, merci Laetitia Piala.
Merci.
C'est un plaisir de vous entendre ce matin. Et puis on souligne donc Transition Pro Normandie et puis l'Institut Transition. On mettra tous les liens sur notre site rcf.fr. Merci également à Isabelle qui a permis la réalisation de cette émission, à Pascal, à Baptiste, à Catherine également. C'est déjà la fin, je pense, donc j'agis. On se retrouve demain, rassurez-vous, de 9h à 11h. On parlera de la situation des enfants placés en France. On évoquera aussi le rôle de famille d'accueil. Voilà pour le programme à retrouver dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ». Bonne journée à tous.